universitaire de la Casa Velázquez rattachée à la Sorbonne Université, sous la direction conjointe de Julio Dumézil et de Daniel Balou. Ses recherches portent sur l'entourage des comtes pré-catalans. Sa thèse s'intitule « L'entourage des comtes pré-catalans, servir et gouverner dans la marge d'Espagne post-carolingienne entre la mort de Guilfred le Velu et l'an 1000 ». Et dans le cadre de ce séminaire, il interviendra sur le sujet « Gironde, une cité épiscopale clouée sur l'échiquier politique des princes maronitains ».
Bonjour et merci à tous d'être ici présents en nombre pour m'entendre aborder le cas de la cité épiscopale de Gironde dans un Moyen-Âge qui est plus ancien que celui qui nous intéresse autrement aujourd'hui. Avant de commencer, je tenais à également remercier Nour Damani et Julie Bordier pour l'honneur qu'elles me font en m'invitant à participer aujourd'hui à ce séminaire. Au sein du diocèse de Gironde, comme ailleurs dans le monde post-carolingien, l'Église mêle à une autorité spirituelle un pouvoir temporel qui en fait une entité politique clé du monde marémontin, du fait de sa situation, de ses privilèges, de sa richesse ou encore de l'importance de ses églises. En parallèle, à l'heure où les marchés ne font qu'apparaître dans les faubourgs naissants des principales cités de cette région, il n'existe pas vraiment de pouvoir particulier propre aux espaces urbains qui demeure encore entre les mains d'une aristocratie encadrant le reste de la société. En somme, il nous faudra donc ici nous intéresser à un groupe bicéphale incarné dans les personnes du comte et de l'évêque, voire du comte-évêque. Le néologisme de Marémontin que j'ai employé prend à rebours l'idée d'une pré-Catalogne politiquement unifiée dès le Xe siècle. Ce qui est au contraire, ce Xe siècle, celui de la plus grande désunion de cette région. Il est essentiel de prendre cette information en compte pour interpréter les fréquentes querelles entre les pôles princiers de la région, celle-ci étant incontournable en ce qu'elle porte principalement sur le contrôle même de ses évêchés. En effet, si de Narbonne jusqu'à l'Hispanie, l'évêque et son siège forment bien un rouage essentiel de la machinerie princière marémontaine, pouvant à loisir soutenir ou gêner le pouvoir comtal, ils sont dans leur quasi-totalité contrôlés par les princes barcelonais, qui ne laissent que l'évêché périphérique d'Elne, que vous avez sur cette carte, à se partager entre les dynasties cerdanes et empourdanaises. De plus, ce diocèse de Gironde, qui est central dans la région, il se superpose sur des comtés de ces deux lignées. La maîtrise de la cité de Gironde et de son siège s'avérait donc indispensable à l'épanouissement politique de ces principautés. Pourtant, l'historiographie a considéré le diocèse de Gironde d'une manière similaire à celui d'Aussonne, comme étant entièrement acquis à la dynastie barcelonaise. L'évêché, avec tous les pouvoirs associés, serait ainsi un relais immuable de ce pouvoir princier. Pour autant, une lecture plus fine de notre documentation peut nous conduire à relativiser cette association. La présence barcelonaise y apparaît ainsi relativement faible, en particulier au regard d'autres espaces de leur principauté. Afin de démontrer cette révision, nous nous intéresserons essentiellement au corps aristocratique laïque, qui représente le sujet de ma thèse. Une analyse globale de tous les personnages de cet espace apparaissant bien trop ambitieuse au vu de l'ampleur de la documentation qui concerne cette région à cette époque. L'Église ici sera malgré tout abordée en ce que cette institution s'avère bien indispensable à l'assurance du pouvoir de ses laïcs. C'est bien dans cette équation que se tient donc l'enjeu du contrôle comtal de cet évêché et de la riche cité sur laquelle il repose. La maîtrise de Gironde elle est en effet d'autant plus importante que les centres urbains sont rares dans l'espace marémontin. Une carte de la péninsule faite au monastère de Ripoll au Xe siècle figure ainsi cet espace comme étant une succession de quelques villes s'étendant le long de l'ancienne Via Augusta, de Narbonne jusqu'à Tarragone, en passant donc par les cités d'Empúries, les villes d'Empúries, Gironde et bien sûr Barcelone. Flossel Sabaté distingue Barcelone et Gironde justement comme étant les seuls centres à être qualifiés dans la documentation comme étant des ourbes. Il en fait des sites majeurs, avec une continuité d'occupation depuis l'Antiquité tardive, et une centralité assurée par le rassemblement d'institutions politiques, culturelles et économiques, mais aussi d'importants remparts qui ont un rôle essentiel dans ces cités-là. Cette cité et ses murs, pourtant, ne pourraient servir à grand-chose sans les hommes pour les garnir et les tenir. Aussi, la prosopographie et l'analyse numérique des réseaux s'avèrent dès lors très précieuses pour identifier et suivre ces derniers, cela en vue de pouvoir lire les jeux de pouvoir marémontains. Si l'on souhaite éclairer le rapport entre Église et pouvoir urbain dans ces comtés au Xe siècle, il apparaît donc essentiel de s'intéresser à ces aristocrates intermédiaires, lesquels garantissent le pouvoir des dirigeants par leur service et aussi leur rôle de relais de l'autorité comtale comme épiscopale. Ces outils permettent bien de révéler ces individus et leur position, en facilitant leur identification, mais surtout en quantifiant et en mesurant leur rapport avec les princes. Cet état des lieux de la question étant posé, nous pouvons désormais poursuivre notre remise en cause de cette domination barcelonaise hégémonique sur Gironde et son évêché, notamment en mobilisant les actes juridiques du diocèse éponyme. Ceci doit nous permettre de réaffirmer l'importance du contrôle des sièges épiscopaux pour l'élaboration des lignées princières marémontaines. À cette occasion, nous essaierons de voir en quoi la mobilisation des réseaux aristocratiques par ces comtes est bien indispensable pour y assurer leur domination. Et pour revenir à la place de l'Église vis-à-vis du pouvoir dans la ville, le cas de Gérone devrait finalement nous permettre de montrer que l'évêque est bien maître en sa cité, la conquête de la cathèdre par le prince visant bien à assurer l'émancipation de sa propre principauté. Seconde cité du monde marémontain après Barcelone donc, Gérone domine un riche terroir agricole d'où elle draine les productions et revenus associés, cela par le biais d'impôts publics et de taxes ecclésiastiques qui sont garanties par le cumul de privilèges et d'immunités accumulés depuis le IXe siècle. Cela conduit à une forme d'ingérence fiscale qui s'étend à travers tout le diocèse, comme le montre bien notamment la reconnaissance du patrimoine de l'évêché octroyé par le pape à l'évêque Odo en 1002. Il y rappelle alors le droit de l'évêque à percevoir une partie conséquente des revenus, qu'ils soient liés au commerce, au trafic maritime, au pâturage du bétail ou encore à la frappe de la monnaie, dans les différents comtés rassemblés au sein de son diocèse. Cette situation, elle s'accentue aux dépens des princes avec la mise en place du réseau paroissial au fil de cette période, lequel ordonne le territoire diocésain sous le regard de l'évêque, privant les princes de revenus dès lors octroyés à l'Église. L'évêque de Gérone, il est également, à la suite du comte, le principal responsable de la justice. Il peut ainsi la rendre au sein même du comté de Gérone, bien sûr, mais aussi dans le reste du diocèse et jusque dans les capitales comtales voisines de Bessalou ou d'Ampouriès. Ainsi, dès le tournant du Xe siècle, l'évêque Servus Dei use de son tribunal afin de récupérer des vignes usurpées par des particuliers dans le comté d'Ampouriès. De même, au printemps 950, l'évêque Gottmar revendique, au cœur de la cour comtale de Guifredus, à Bessalou, les villages et revenus associés de la Villa Longa, au cœur de la principauté du comte. Bénéficiant de privilèges royaux, l'évêque peut ici outrepasser le droit du prince, qui en bénéficierait pourtant à la suite de son frère Sunifred II, et avant lui, de leur père, Miron II le Jeune, qui les aurait reçus par sa mise en culture de ces domaines. L'évêché, il est aussi le siège d'un pouvoir politique majeur, en ce que l'évêque dispose de son propre hoste. C'est une situation que l'on retrouve en particulier lors de l'expédition publique de 1010, où l'évêque déjà cité, Odon, perd la vie sous les murs de Cordoue en luttant contre les Sarrasins. Au-delà de la guerre, l'évêque, et spécifiquement celui de Gérone, tiendrait également un rôle clé dans la diplomatie marémontaine avec le califat omeyyade de Cordoue. Ibn Ayan évoque ainsi une ambassade conduite par l'évêque Gottmar en 940. Une autre ambassade chrétienne de 974 comporte parmi ses délégués un certain Ishtiban ibn Bika, délégué de l'évêque Géronais. Il est ici intéressant de noter que ce dernier n'est pas directement associé à l'ambassadeur barcelonais, lequel le précède à la cour cordouane. Cela suppose bien deux missions distinctes, jouant dans le sens d'une scission entre les intérêts barcelonais et géronais. Enfin, le siège épiscopal et ses clercs sont un terreau de légitimation pour le pouvoir princier. Formateur des lettrés autour de son école cathédrale, l'Église permet aux comtes de bénéficier d'un personnel qualifié, assurant leur domination en rédigeant les preuves la garantissant, tout en la justifiant. C'est ce que nous pouvons observer dans l'acte de consécration de Ripoll, le célèbre troisième, rédigé par le comte-évêque Miron III à Bonfils, où la lutte comtale prétendument initiée par son aïeul Guifred le Velu est présentée comme fondatrice de l'autorité de ses successeurs et descendants, dont fait partie Miron. Par l'ensemble donc des ressources et pouvoirs qu'offre l'évêché, que nous venons d'énumérer, celui-ci apparaît bien comme un enjeu essentiel dans l'épanouissement des principautés post-carolingiennes marémontaines, en partie intégrées dans son diocèse. Il est ainsi logique que des querelles éclatent entre princes et prélats autour de son contrôle, et c'est ce que nous allons voir désormais. Au crépuscule du IXe siècle déjà, les comtes d'Ampouriès redoublent d'efforts pour prendre le contrôle de l'évêché de Gérone, et ainsi se prémunir d'une ingestion par un ensemble guifrédien s'étendant alors sur l'ensemble des autres comtés marémontains. En 886, Servus Dei, proche du comte barcelonais, aurait ainsi été renversé par Sunier II, le comte d'Ampouriès, lequel fit élire comme évêque à sa place, à Sainte-Marty d'Ampouriès justement, un certain Hermémir, avec le soutien d'autres prélats de la province. Il en résulte que durant quelques années, nous trouvons à la tête de la cité diocésaine le frère du comte, Della, qui dirige les tribunaux comme comte. En 898, c'est le fils de Sunier II qui siégerait au sommet du tribunal gironnais, avec son vicomte, mais bien sans l'évêque de la cité, après que Servus Dei ait été réinstallé par l'archevêque de Narbonne. Quelques années plus tard, à la suite de Guifred Borel, qui avait repris le contrôle sur la cité de Gérone en soutenant l'élection de Ouigo, son frère Sunier aurait mené une politique plus mesurée vis-à-vis de la cité, s'intéressant davantage, lui, à la récupération des espaces voisins du Ripoyès et de Bessalou. Ce retrait n'empêche pas le maintien de bonnes relations marquées par la concession de la monnaie comtale à Gérone en 934, mais aussi plusieurs donations pieuses liant le destin de la famille comtale au siège gironnais. Nous retrouvons bien ici l'idée d'un évêché légitimateur de ces pratiques comtales. Celui-ci peut également être compris comme étant un espace de formation des jeunes Barcelonais en amont de leur succession à leur père. Ainsi, le jeune Borel s'y trouve de longue date, là où son frère Ermengol était lui à la tête du comté d'Aussonne. Borel accompagnerait ainsi son père en 936, lors de la remise de Riudora, un monastère implanté justement à équidistance de Ripoll et du Bessalut, au monastère de la Grâce. Borel est également présent en 944, à l'occasion de l'élection de l'abbé Eldecindus de Saint-Père et de Rhodes, jusqu'à diriger le tribunal gironnais avec le vicomte en 945-946, cela juste avant la retraite monastique de son père l'année suivante. Si la domination barcelonaise sur Gérone, elle peut donc être contestée comme nous venons de le voir, elle pourrait même être renversée. Bien que Borel maintienne initialement sa présence à Gérone, certainement en vue de faire reconnaître son autorité dans un espace périphérique de sa principauté, il semblerait par la suite qu'il se repose largement sur l'évêque, qui est aussi l'abbé du monastère de Saint-Cugat del Vallès, pour diriger ce comté. Cela change à partir de 954 à l'occasion de l'élection d'un nouvel évêque. Borel commence alors à voir sa présence drastiquement se restreindre dans la documentation diocésaine. Cela paraît lié à une prise d'importance cerdane régionale, concrétisée par l'ascension d'un homme proche des cercles de la fratrie comtale, Arnulf, abbé du monastère de Santa Maria de Ripoll, dont les princes étaient les patrons. Cette prise d'éloignement elle est scellée en 970 avec l'avènement de Miron III Bonfil, cadet de la fratrie cerdane et ainsi prédestiné à une éducation cléricale qui l'avait entraîné à être formé à Ripoll puis dans la cathédrale gironaise. Il était donc proche d'Arnulf et il lui succède dans des circonstances troublées alors que Borel s'efforçait de son côté, depuis Rome, d'unifier l'église marémontaine sous un siège de vic promu au rang métropolitain. Durant les 14 années où il exerce sa charge, Miron, à la fois évêque de Gérone et comte de Bessalut, devient ainsi le principal personnage politique du diocèse, comme le révèle l'analyse des réseaux sociaux de l'aristocratie régionale que vous avez ici représentée sous la forme d'un graphe. Borel, de son côté, devient un figurant de l'histoire du diocèse de Gérone. Il apparaît une seule fois en 980 pour la vente d'un alleu dans la région, et surtout en 979 à l'occasion d'une donation pieuse justement de Miron, commémorant l'intervention de Saint Stéphane alors que le comte barcelonais avait envahi le diocèse et érigé un château au-dessus du monastère éponyme, à moins de 15 km de Bessalut. En somme, nous avons bien ici un intermède cerdan durant lequel le pouvoir barcelonais est au moins en recul, si ce n'est absent de l'évêché, et cela durant près de 3 décennies. Cette situation, toutefois, elle ne survit pas à la mort de Miron III Bonfil en 984. En effet, dès 987, Borel est de retour dans la cité. Il y dirige le tribunal en présence du nouvel évêque, Gothmar, homonyme du dernier prélat avec qui le comte avait collaboré à Gérone. Il reçoit à cette occasion, devant une part importante des clercs de la cité et un personnel laïque entièrement renouvelé par rapport au tribunal de Miron, une plainte de Eldecindus, l'évêque d'Elne et l'abbé de Saint-Père de Rhodes, dont il avait assisté à l'élection il y a plus de 40 ans de cela. Par la convocation de ce tribunal, Borel viserait donc à réaffirmer une présence barcelonaise malmenée dans le comté depuis des décennies et s'assure d'y parvenir en renouant avec le clergé local et celui opposé à ses rivaux. Il apparaît que cette stratégie a porté ses fruits. À la mort du prince en 993, le comté de Gérone fait bien partie de sa principauté et il le traite même en premier dans son testament, où il y choisit comme exécuteur testamentaire, parmi ses fils et amis, l'évêque Gothmar justement et le vicomte de Gérone, Sunifred. Après une absence vicomtale chronique, celui-ci paraît d'ailleurs plus présent dans le comté, où il accompagne le comte jusqu'à sa mort. En 1010, Hermessande de Carcassonne, comtesse de Barcelone, scelle ce retour sur le comté des Barcelonais et sur la cité associée, en y installant son frère, Pierre, comme nouvel évêque. Cette analyse des réseaux aristocratiques dans le diocèse entre 946 et 987, notamment réalisée donc à partir des tribunaux publics s'y étant tenus à cette époque, révèle que le pouvoir épiscopal gironnais est alors mis au service du comte de Bessalut. Le comte évêque, Miron, s'empare de la justice épiscopale qu'il ne rend pas tant depuis sa cathèdre que depuis son trône, entouré des testibus idoneis, notamment incarnés par les nobilis viris du comté. Ceux-ci sont bien davantage hommes de la dynastie que du comte lui-même. Ils appartiennent ainsi à l'entourage successif de ses frères, Guifred II, assassiné en 957, Sunifred II, mort sans doute en combattant les musulmans en 966, et Oliba Cabreta, qui succède à son frère et prend une retraite monastique en 988. Parmi ces Mayorescue Natu, qui figurent ici sur le graphique, nous pouvons citer entre autres le vicomte de Bessalut, Wandal Godus, les exécuteurs testamentaires de Sunifred II, Enego Falcuccio et Oriol de Tortella, lequel est compté parmi les amis et fidèles de Miron dans le testament de ce dernier, et se trouve aussi fréquemment en tête des laïcs qui entourent le comte. Cette appropriation, elle se retrouve également dans les ambassades qui sont réalisées à Cordoue au cours des années 970. Considérant qu'elles prennent place lors de l'épiscopat de Miron, nous pouvons en déduire que le Stéphanus mentionné par Ibn Ayan, que nous avons évoqué précédemment, pourrait certainement être un proche du comte-évêque. Et l'analyse, là encore une fois, de ces réseaux sociaux nous montre bien la présence dans les années 977-978 d'un homonyme souscrivant à deux des donations du comte-évêque envers Sainte Péret de Bessalou. Avec la réappropriation de la diplomatie, c'est ainsi l'un des aspects les plus importants du pouvoir public qui tombe donc aux mains de l'évêque. La promotion d'évêché autonome devait servir l'ordre carolingien en maintenant initialement un contre-pouvoir capable de juguler les appétits laïcs. La captation de l'élection épiscopale par les comtes bouleverse toutefois cet équilibre lorsque ceux-ci, en ne s'appuyant plus que sur le consensus de leurs fidèles, se servent de ce processus pour y installer leurs proches à leur tête. En parallèle donc, à mesure que le pouvoir carolingien s'amenuise au fil du Xe siècle, la papauté devient progressivement la principale interlocutrice des entités dissidentes au sein de cet espace. Ce recours à la papauté permet à ces princes de se prémunir de toute ingérence extérieure. Ainsi, les princes cerdans multiplient les fondations monastiques à cette époque afin d'assurer des pôles d'immunité au sein de leur principauté, selon un répertoire d'action qui est lui largement dirigé contre les évêchés et princes voisins, notamment donc celui de Gérone. En 977, une communauté canonique est installée ainsi dans l'église Sainte-Péret à Bessalou, afin qu'ils y prient pour la dynastie et les défunts fidèles du comté. Extraite du pouvoir épiscopal, celle-ci n'en doit pas moins offrir l'accueil et l'entretien à Miron, ainsi qu'à sept de ses compagnons. Promu au rang de monastère dès la fin de cette année, il est alors immédiatement placé sous la tutelle pontificale, ceci afin qu'il soit préservé de tout roi, duc, comte, personne ecclésiastique ou laïque, qui voudrait ou bien y imposer sa domination ou y tenir un plaid. Lorsque le nouvel abbé est nommé en 979, il obtient de Benoît VII la confirmation de tous ses privilèges, mais aussi sa protection, ainsi que la réaffirmation de l'immunité dont jouit le monastère, immédiatement placé sous l'autorité romaine, prévenant quiconque de l'excommunier, si ce n'est le pontife lui-même. Ce faisant, tout contrevenant à cette décision risque l'excommunication pour sacrilège, ainsi que la damnation éternelle, alors même que ses défenseurs bénéficieraient de l'intercession directe du pape pour accéder au paradis. S'il y a une émancipation ici, elle est bien clairement dirigée contre l'évêché, alors que le bien nommé monastère de Saint-Pierre demeure lui toujours à l'ombre du château comtal, dont le maître finance et promeut cet affranchissement. En Bessalou, avec le monastère de Sainte-Péret des Camprodones, nous pouvons également suivre le destin d'un monastère qui est pleinement familiarisé, à partir duquel s'organise un pouvoir princier en quête d'autonomie face à l'évêché géronais. Fondée en 904, cette église est immédiatement ôtée des appétits de toute puissance séculaire chrétienne. Largement doté par le comte Guifred II, puis par son frère Sunifred, celui-ci fait élire l'abbé directement en 962, cela avec le conseil de l'évêque de Gérone, Arnulf, dont nous avons déjà parlé. À l'occasion de cette cérémonie est d'alors rappelé le rôle fondateur de la fratrie cerdane, associé aux rois et princes ayant permis par le passé l'expansion du christianisme depuis l'Antiquité. Sunifred, dans cette donation, rappelle que lui et ses frères et les membres de sa famille ont richement doté l'institution et lui ont même obtenu, de la part de Guifred, un diplôme royal de Louis IV d'Outre-mer quelques années auparavant. Le comte lui accorde alors de nombreux biens, rappelant toujours la protection dont jouit le monastère, tout en exigeant des moines qu'il se dévoue au salut de sa famille. Miron, à sa suite, poursuit cette tradition et continue jusque dans son testament à entretenir ce qui est devenu un véritable monastère familial, où la domination de l'abbé dépendrait entièrement des comtes. Il est d'ailleurs révélateur de trouver parmi les autres mécènes du monastère un certain Luke Sancho, fidèle majeur de la fratrie cerdane qu'on retrouvait justement au cœur du graphique précédemment évoqué. En parallèle de ces pratiques, le comté serait alors élevé au rang d'une patrie, où le comte veillerait à l'épanouissement de tous. Ainsi, Guifred fut considéré a posteriori comme prince de la terre et du peuple de Bessalou, je cite, les moines de Ripoll priant ainsi avant sa mort pour la sûreté et l'expansion de son royaume. Miron Bonfil n'hésite pas à adopter ce titre, alors même qu'il se fait le garant de la justice au sein du comté. Selon la Memoria familiale, construite justement par le comte-évêque, le meurtre de son frère en 957 devrait être compris comme un véritable sacrilège, du fait que les rebelles qui l'avaient assassiné rencontrent un sort similaire et réservé à ceux s'étant élevés contre le prince, bien sûr, mais aussi contre le peuple et la patrie. À l'occasion de la commémoration où il rappelle ce drame, lié à une donation pro anima à laquelle il lie les fidèles de son comté, le comte-évêque rappelle, en citant l'Ancien Testament, le contrat conclu entre Dieu et le peuple élu d'Israël, devant leur permettre de vivre sur leur terre sans peur, à contrario donc de ce qu'avait subi son frère. Il adopte ainsi une posture moïsiaque et se pense nouveau vicaire de Dieu, incarnant pleinement sa double identité de comte-évêque, veillant au salut des ouailles de son regnum. Lorsque son neveu, l'abbé et évêque Oliba, se charge de rédiger les épitaphes de ses aïeux quelques décennies après sa mort, celui-ci ne manque ainsi pas d'élever son oncle, l'ancien évêque de Gérone, au rang de maître de la patrie. À travers ces quelques pages, nous nous sommes donc efforcés de revenir sur l'idée d'une hégémonie barcelonaise dans le comté de Gérone à travers tout le Xe siècle. Ceci devait nous permettre d'interroger la place de ce siège épiscopal et de son église, et de l'église de manière générale, dans l'épanouissement des principautés marémontaines. Gérone représente bien un enjeu majeur, ce qui explique la contestation que rencontrent les comtes barcelonais tout au long de cette période, et en particulier lors de l'épiscopat du comte-évêque Miron III Bonfil. Sur l'échiquier politique marémontain, viser la cité permettrait ainsi aux différents princes de protéger leurs propres pièces tout en menaçant celles de leurs voisins à travers le contrôle de cette dernière. Ces stratégies ne sont toutefois pas infaillibles, comme nous avons pu le voir, et demeurent essentiellement liées à la personne princière qui les exécute. Chaque décès est ainsi l'occasion de rebattre les cartes à la table des relations politiques de la région. Après celui de Miron, les Barcelonais retournent durablement à la tête de l'évêché, l'évêque Odon pouvant aller porter réclamation pour des propriétés jusqu'au cœur du comté de Besalú. In fine, c'est bien en obtenant son propre évêché que l'on peut le mieux se prémunir des interférences avec d'autres grands voisins, et les princes voisins en particulier. C'est chose faite pour le comté de Besalú en 1017, lorsque Bernard Taillefer, neveu de Miron, dépose l'abbesse de San Juan de las Abadesas pour installer son fils à la tête d'un diocèse superposé à son comté. Sans contrôle épiscopal, la pérennité princière est donc souvent relative. Ainsi, le comte Hugues d'Ampouriès se trouve incapable, autour des années 1020, de récupérer l'important alleu du Lastrette. Face à un tribunal où siège notamment l'évêque de Gérone, Pierre de Carcassonne, frère de la comtesse de Barcelone Hermesande, le droit lui est défavorable et il ne lui reste plus que le recours à la force pour tenter de renverser en vain cette prédominance barcelonaise. Je vous remercie pour votre attention.